Le journal est présenté par Antoine Maret. Bonsoir Antoine.
Bonsoir. Plusieurs dizaines de milliers de personnes dans les rues d'Alger contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika. Le président algérien sortant a annoncé qu'il se présentait à la présidentielle pour un cinquième mandat. À Mogadiscio, en Somalie, la fin du siège des forces de sécurité contre le commando Shebab qui a semé la mort dans la ville depuis hier soir. Le bilan est lourd, au moins 19 morts, une centaine de blessés. Dans l'actualité française, Emmanuel Macron à Bordeaux, le chef de l'État est revenu sur le dossier Ford. Le site de Blanquefort, juste à côté, doit fermer en août. Emmanuel Macron veut forcer Ford à payer pour revitaliser le site. Peut-être un procès en perspective pour Marine Le Pen. Le parquet de Nanterre a requis le renvoi de la présidente du Rassemblement National devant un tribunal pour la diffusion d'images violentes. En 2015, elle avait publié sur Twitter des photos d'exactions de l'État islamique. À la fin de cette édition, l'enquête de la cellule d'investigation de Radio France. Elle est consacrée cette semaine au projet de taxe GAFA, taxe des géants du numérique. Il est au pouvoir depuis 20 ans, il n'est plus que l'ombre de lui-même après un accident vasculaire cérébral et pourtant Abdelaziz Bouteflika est bien décidé à effectuer un cinquième mandat. Le mandat de trop pour l'opinion publique algérienne qui manifeste en masse, une contestation d'ampleur inédite depuis 20 ans dans le pays où, rappelons-le, les manifestations sont interdites. Aujourd'hui, c'est une foule impressionnante qui s'est rassemblée, notamment dans le centre de la capitale, au cri de pouvoir assassin. À Alger, la correspondance de Leïla Berato.
Les manifestants se sont rassemblés dans le centre d'Alger en début d'après-midi. La foule, plus nombreuse que vendredi dernier, s'est dirigée ensuite vers le palais du peuple sur les hauteurs, puis vers la présidence de la République. Pendant plus de 3 heures, les manifestants, toutes générations confondues, ont défilé en chantant « Non au cinquième mandat » et tout cela dans le calme. Malgré quelques tirs de lacrymogènes au moment où Rachid Nekaz, candidat à la présidentielle, a fait une apparition sur un balcon près de la Grande Poste. Les manifestants ont alors répliqué en chantant « C'est une manifestation populaire ». Au début de l'après-midi, Ali Benflis, lui aussi candidat à la présidentielle, a expliqué qu'il marcherait aux côtés des Algériens. La responsable du Parti des travailleurs, Louisa Hanoun, était également dans les cortèges et selon le journal Al Khabar, Jamila Bouhired, figure de la lutte pour l'indépendance, était elle aussi parmi les manifestants. En fin d'après-midi, alors que les manifestants s'approchaient de la présidence, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène. Quelques personnes ont été blessées. D'autres manifestations ont été signalées dans tout le pays, du nord au sud et d'est en ouest, sans pour le moment qu'il n'y ait d'affrontement ou de violence.
Une nouvelle attaque terroriste à Mogadiscio en Somalie. Un véhicule piégé a explosé près d'un grand hôtel de la capitale. Le commando responsable de l'action s'est retranché dans un bâtiment annexe. S'en sont suivis des affrontements à l'arme automatique avec la police. Finalement, les forces de sécurité somaliennes ont tué les djihadistes. Nadine Epstein.
Des forces de sécurité somaliennes et des miliciens des Shebab se sont encore affrontés cet après-midi à Mogadiscio, plus de 20 heures après l'attentat suicide qui visait des responsables du gouvernement somalien logés dans un hôtel de la capitale. Les islamistes ont revendiqué cette action. Pour l'instant, il y a au moins 29 morts et 80 blessés. L'explosion a aussi causé beaucoup de dégâts matériels. Toute la zone était en feu, raconte un témoin. Les Shebab ont juré de vaincre le gouvernement et les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine envoyée en Somalie. Pour ce faire, ils mènent des attaques d'envergure contre des hôtels de Mogadiscio, comme celle d'hier, ou celle en novembre 2018, et d'autres attentats à la voiture piégée qui, en sautant, tue un maximum de passants. En 2017, près de 300 personnes ont péri toujours dans la capitale. Le groupe djihadiste somalien lié à Al-Qaïda a été chassé de Mogadiscio en 2011 et petit à petit des autres grandes villes. Bien que les islamistes aient perdu leurs principaux bastions du centre et du sud de la Somalie, ils contrôlent toujours de larges zones rurales d'où ils préparent leurs opérations de guérilla et des attentats suicides contre tout symbole du gouvernement ou contre la force militaire africaine qui le soutient.
$1 million en échange de toute information sur Hamza Ben Laden. Le fils préféré d'Oussama Ben Laden est activement recherché par Washington qui le considère comme un dirigeant clé d'Al-Qaïda. Le département d'État américain propose donc cette récompense conséquente en échange de renseignements. À New York, les précisions de Loïc Loury.
Hamza Oussama Mohamed Ben Laden n'a pas encore 30 ans, mais il est aujourd'hui surnommé le prince héritier du djihad. Depuis 2015, il fait officiellement partie d'Al-Qaïda. Il est désormais un cadre du réseau fondé par son père, dont il pourrait bientôt recevoir la couronne, selon les Nations Unies. Hamza Ben Laden, 15e enfant d'une fratrie de 20, le fils préféré, dit-on, a très jeune marché dans les traces de son père. Il apprend notamment à manier les armes en Afghanistan avant 2001. On le voit aussi en vidéo dénoncer les croisés, les Américains et les Juifs, avec sa petite voix d'enfant. La veille des attentats du World Trade Center, il est toutefois séparé de son père, qu'il ne reverra jamais, mais les deux hommes entrés en clandestinité continuent de s'écrire. Dans l'une de ses lettres, Hamza Ben Laden explique être forgé dans l'acier et prêt pour la victoire ou le martyr. Aujourd'hui, des années plus tard, il pourrait être en Syrie, en Afghanistan ou en Iran. Il appelle depuis sa cachette à des attaques contre les États-Unis et leurs alliés occidentaux. Avec la chute de l'État islamique, Hamza Ben Laden serait bien placé selon les spécialistes pour réunifier un mouvement djihadiste morcelé, d'où l'inquiétude suscitée par le personnage et cette récompense, $1 million offerte par les États-Unis pour tout indice permettant de le retrouver.
Un signe d'apaisement entre Islamabad et New Delhi après une semaine d'escalade militaire. Le Pakistan a partiellement rouvert son espace aérien. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'autorité de l'aviation civile pakistanaise. Il avait été fermé avant-hier du fait de fortes tensions avec le voisin indien. Par ailleurs, le pilote indien prisonnier de l'armée pakistanaise vient d'être rendu. Un geste de paix, selon le Premier ministre pakistanais, et un soulagement pour le moment dans la région. Correspondance à New Delhi du correspondant de RFI, Sébastien Farsi.
La restitution du pilote indien prisonnier a été réalisée avec plus de 6 heures de retard. Une journée longue, dramatique donc, pour conclure une semaine tendue. Le Premier ministre pakistanais affirmait hier que le retour de ce militaire indien devait être pris comme un geste de paix, une main tendue après une semaine qui a vu les plus graves affrontements aériens depuis la guerre indo-pakistanaise de 1971. A priori, cela ressemble à une désescalade militaire. Mais cette main tendue, le Premier ministre indien, lui, ne l'a pas encore officiellement saisi. Narendra Modi n'a pas parlé à son homologue ni affirmé symboliquement que l'attaque de l'armée indienne sur le territoire pakistanais mardi et le bombardement de prétendues installations terroristes avaient atteint leur but, à savoir punir les terroristes du Jaïch et Mohamed pour l'attentat qui a tué 40 militaires indiens le 14 février dernier. Dans ce contexte, une réplique de l'armée indienne n'est pas à exclure, surtout dans le contexte actuel. Les élections législatives vont se tenir dans moins de 2 mois en Inde et selon les derniers sondages, le parti nationaliste hindou au pouvoir perdrait sa majorité absolue à l'Assemblée. Le Premier ministre Narendra Modi pourrait donc être tenté de faire remonter la tension avec le Pakistan dans un affrontement de faible intensité, mais qui souderait les Indiens derrière leur leader.
18h08 sur France Culture, Emmanuel Macron à Bordeaux. Le chef de l'État a rendu visite à Alain Juppé qui met un terme à sa carrière politique. L'occasion pour lui de revenir sur le dossier Ford. Le site de Blanquefort, juste à côté, doit fermer en août. Bonsoir Catherine Pétillon.
Bonsoir.
Et Madame Macron, en fait, veut forcer Ford à payer pour revitaliser le site.
Oui, de passage sur une rencontre du Grand Débat, le président de la République répondait en fait à l'interpellation sur l'avenir de l'usine et du site. Depuis que Ford a refusé l'offre de reprise du groupe belge Punch, on sait que l'usine de boîte de vitesse est condamnée à fermer. Cela veut dire beaucoup d'incertitudes pour l'avenir des 850 salariés qu'elle emploie et aussi un échec pour l'exécutif, Bruno Le Maire en tête, qui s'était investi dans le dossier. Le maximum a été fait, estime Emmanuel Macron.
Les élus, les services de l'État se sont battus pour essayer de trouver des repreneurs, des solutions disponibles. Nous avons eu à faire face, il faut bien le dire aussi, à un véritable cynisme de l'entreprise.
Les services de l'État doivent homologuer lundi le plan social de Ford, ce qui lancera le processus de fermeture de l'usine et la mise en place des mesures comme les reclassements ou les conditions de pré-retraite. Emmanuel Macron a rappelé qu'un dispositif spécifique d'accompagnement serait proposé aux salariés menés avec la région, mais a aussi souligné que les discussions avec Ford ne sont pas finies.
Maintenant, on doit être aux côtés à la fois du territoire et des anciens salariés. Aujourd'hui, de par la loi, nos dispositifs, ce que nous allons forcer, et les services de l'État sont dans leur rôle à cet égard, c'est qu'on va forcer l'entreprise à revitaliser le territoire et donc à investir dans celui-ci pour sa conversion industrielle.
car la fermeture de cette usine donne à Ford des obligations légales non seulement envers les salariés qu'il va licencier, mais aussi envers le territoire. Le dispositif de revitalisation est prévu pour soutenir l'activité économique des zones mises en difficulté par des licenciements. L'exécutif essaye donc désormais d'obtenir de Ford le maximum d'investissement afin d'amortir au mieux les conséquences de cette fermeture pour le territoire.
Merci Catherine Pétillon. Emmanuel Macron cette fois fait un peu plus court, 3h30 de discussion quand les précédentes étapes pouvaient aller jusqu'à 6 ou 7 heures. Le tout toujours retransmis en direct par les chaînes info en continu, situation qui mettrait en danger le pluralisme politique d'après l'opposition sevrée d'espace médiatique. Les Républicains, la France Insoumise, le Rassemblement National ou encore le Parti Socialiste ont déjà saisi le CSA à ce sujet. Bonsoir Steven Goyer.
Bonsoir.
Il réclame notamment le décompte de ces échanges dans le temps de parole de La République En Marche pour les élections européennes.
Et ce sera a priori compliqué, d'abord parce que d'après les règles du CSA, nous sommes toujours en période hors campagne. Le décompte des temps de parole pour les européennes ne débutera que mi-avril. Et pour Arnaud Mercier, professeur en communication à l'université Paris de Assas, il y a une autre raison propre au sujet traité par Emmanuel Macron dans ce grand débat.
Il ne vient pas parler spécifiquement, et même loin s'en faut, de l'Union européenne, des enjeux européens. Il est complètement centré sur les enjeux politiques intérieurs. Ça me paraît difficile de plaider le fait que ce serait une forme de campagne européenne déguisée, alors qu'il est dans un calendrier qui est celui du mouvement des Gilets jaunes et de la manière d'y répondre.
Mais il existe aussi un décompte hors campagne, avec un tiers de temps de parole réservé à l'exécutif. Alors côté opposition, on considère la limite déjà franchie avec la diffusion en continu des échanges d'Emmanuel Macron. Et on réclame donc un rééquilibrage. Le problème pour le député France Insoumise Alexis Corbière, c'est que ce rééquilibrage, eh bien, il n'aura peut-être jamais lieu.
Le CSA, lorsque nous l'avons interpellé, nous répond qu'il a des chiffres trimestriels et qu'à l'occasion déjà de cette évaluation trimestrielle, il pourra être amené à demander aux différents médias de rectifier. Mais on se retrouvera à ce moment-là en plein débat européen où il n'y aura aucune capacité de corriger puisque ce sera d'autres règles. Bref, on voit bien qu'on a là quelque chose qui est un peu hors norme et le CSA, manifestement, est impuissant à pouvoir agir.
On serait donc presque dans une impasse, à moins que le CSA ne rééquilibre après les élections. Une alternative qui serait sans doute loin de satisfaire l'opposition.
Merci Steven Goyer. Peut-être un procès en perspective pour Marine Le Pen. Le parquet de Nanterre a requis le renvoi de la présidente du Rassemblement National devant un tribunal pour la diffusion d'images violentes. En 2015, elle avait publié sur Twitter des photos d'exactions de l'État islamique. Explication de Florence Turm.
Les faits remontent au 16 décembre 2015, quelques semaines après les attentats du 13 novembre. Marine Le Pen accuse le journaliste Jean-Jacques Bourdin d'avoir opéré un parallèle entre le Front National et le groupe État islamique. Sur son compte Twitter, elle poste 3 photos d'exaction accompagnées de ce commentaire « Daesh, c'est ça ». Image particulièrement violente, on y voit un soldat syrien écrasé sous un char, un pilote jordanien brûlé dans une cage et le corps décapité du journaliste américain James Foley. Les tweets provoquent un tollé de la classe politique, mais aussi la réaction indignée des parents du reporter supplicié. Marine Le Pen retire cette dernière image, mais laisse les deux autres en ligne, imitées dans la foulée par le député Gilbert Collard, qui lui diffuse la photo d'un homme à terre, le crâne défoncé. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, saisit alors Pharos, la plateforme qui centralise les signalements de délits en ligne. Depuis 2007, le code pénal réprime la diffusion de messages violents susceptibles d'être vus par un mineur, comme c'est le cas sur la toile. Délit passible de 3 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Après 3 ans d'instruction, le parquet vient donc de demander la tenue d'un procès pour les deux élus qui se sont vus retirer leur immunité parlementaire l'an passé. C'est à la juge chargée du dossier qu'il appartient maintenant d'en décider.
La plateforme de vidéos YouTube est dans la tourmente depuis plusieurs jours maintenant. Un blogueur américain a publié une vidéo révélant l'existence d'une gigantesque communauté pédophile sur le réseau social. Les utilisateurs en question utilisent les commentaires sous les vidéos pour identifier et transmettre des contenus pédopornographiques. Conséquence de cette vidéo choc visionnée par plus de 3 millions de personnes, plusieurs annonceurs publicitaires ont décidé de retirer leur contenu de YouTube. Bonsoir Roméo Van Maastricht.
Bonsoir.
Cette semaine, le site possédé par Google a décidé d'aller plus loin et de tout bonnement supprimer la possibilité de commenter les vidéos montrant des mineurs.
Oui, sur YouTube, il existe des millions de vidéos de petites filles anodines pour la plupart, en tenue de gymnastique gymnastique. Elle vous explique comment faire des roues, des poiriers ou vous montre comment réaliser des poses de yoga. Sous ses vidéos, des milliers de réactions d'utilisateurs. On peut y lire des commentaires malsains tels que « tu feras une très bonne mère »,« très jolie petite fille », des miams et autres remarques particulièrement indécentes. Certains utilisateurs partagent même des liens permettant d'intégrer des groupes de messagerie pédophiles. De plus, une fois après avoir cliqué sur une de ces vidéos, l'algorithme de YouTube nous redirige constamment vers encore et toujours plus de vidéos de fillettes. YouTube veut donc frapper fort, d'autant plus que certains annonceurs publicitaires comme Nestlé, Disney ou l'opérateur télécom AT&T ont décidé de retirer leur publicité de YouTube, autant de revenus financiers en moins pour la plateforme de Google. Après avoir supprimé des millions de commentaires suspects la semaine dernière, elle vient de décider d'interdire la possibilité de commenter les vidéos où apparaissent des mineurs. Pourtant, en allant sur la plateforme, on trouve encore ici et là de nombreuses vidéos de petites filles. Dans les commentaires, il reste des remarques à tendance pédophile. Rappelons qu'en France, la loi punit de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende la recherche et la diffusion de contenus pédopornographiques lorsqu'elles sont faites via un réseau électronique comme Internet.
Merci à vous, Roméo Van Maastricht. Presque 18h passées de 16 minutes sur France Culture, c'est le moment de retrouver l'enquête de la cellule Investigation de Radio France. On connaîtra la semaine prochaine les contours de la fameuse taxe GAFA de Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie renonce à soutenir une taxe au niveau européen. Il faut dire que l'unanimité semble inaccessible, mais il entend bien réussir à imposer en France les géants du numérique. Bonsoir Isabelle Souquet.
Bonsoir.
Enfin, une taxe, disent beaucoup, mais pourquoi est-ce que c'est si compliqué d'imposer les GAFA ?
Eh bien, pour une raison assez simple. Pour imposer une société, il faut qu'elle ait ce que l'on appelle un établissement stable dans notre pays, c'est-à-dire un siège social avec des locaux, des entrepôts, des salariés, etc. Or, Google, par exemple, a mis son siège en Irlande et donc paie l'essentiel de ses impôts là-bas, enfin, sur ce qui ne part pas dans les paradis fiscaux, en l'occurrence, pour Google, aux Bermudes.
Mais alors, pourquoi la France ne peut pas changer les règles en changeant la loi ?
Eh bien, le problème, c'est que ce ne serait pas très efficace. On pourrait effectivement changer nos lois et créer une sorte d'établissement virtuel, mais cela ne suffirait pas à rendre les GAFA imposables, explique Pascal Saint-Amand.
La fiscalité appartient aux États. Les États sont souverains, les peuples sont souverains en matière de fiscalité. Alors, changeons la loi, faisons en sorte qu'on puisse taxer lorsqu'il y a des activités. Sauf que la loi, en France, elle dépend des convention fiscale internationale. Elle ne peut pas être contraire aux engagements internationaux de la France.
Ce qui n'est donc pas le cas pour Google et les autres. Donc, même en changeant notre loi, on ne pourrait pas imposer les GAFA à la hauteur réelle des profits qu'ils réalisent. Et se rajoute à ça que certaines multinationales, y compris françaises, notamment du luxe, n'ont pas non plus envie qu'on change ces conventions internationales parce qu'elles ne souhaitent pas qu'on vienne mettre le nez dans leur fiscalité à l'étranger.
Mais alors comment Bruno Le Maire compte-t-il procéder ?
Eh bien, il va contourner le problème en créant une petite taxe de 3% sur le chiffre d'affaires qui sera estimée par le fisc. C'est donc un premier pas, mais même ça, ce ne sera pas si simple à mettre en œuvre si l'on en croit Éric Vernier, qui est économiste et chercheur associé à l'IRIS.
Comment va-t-on calculer la taxe ? Sur quelle base ? Est-ce que c'est sur le chiffre d'affaires de la publicité vu en France ou du chiffre d'affaires de la publicité d'annonceurs français? Pour le moment, on a un flou total sur la manière dont ils vont procéder. Et deuxièmement, effectivement, le problème, c'est que même si on fait les choses sérieusement, on ne sera pas sur le chiffre d'affaires réel. On ne sera pas sur le bénéfice réel non plus. Quelle que soit la base d'imposition, on n'aura pas les chiffres réels. Donc on n'imposera qu'une toute petite partie de ce qu'on devrait imposer.
Et pourquoi une toute petite partie ?
Eh bien, parce que d'après les cabinets spécialisés, il y aurait une très grande différence entre les chiffres d'affaires déclarés par les GAFA et les chiffres d'affaires réels qu'ils réalisent en France. Nous avons fait une compilation de quelques estimations et nous les avons fait lire par un journaliste.
Facebook déclare un chiffre d'affaires en France de 56 millions d'euros. Son chiffre d'affaires estimé est de 900 millions d'euros. Amazon déclare un chiffre d'affaires en France de 380 millions d'euros. Son chiffre d'affaires estimé est de 5,7 milliards d'euros. Netflix déclare un chiffre d'affaires de 0 euros en France. Son chiffre d'affaires réel estimé est pourtant supérieure à 300 millions d'euros.
Donc entre ce que va rapporter la taxe et ce qu'elle pourrait rapporter, il y aura sans doute une grosse différence. Mais quoi qu'il en soit, il faut avancer, estime Quentin Parinello de l'ONG Oxfam, parce qu'un mouvement est déjà enclenché.
L'Espagne a déjà voté la mise en place d'une taxe GAFA à 3%. Le Royaume-Uni a voté une taxe GAFA à 2%. L'Italie et l'Autriche sont en train de les voter, donc il y a un vrai mouvement de fond pour influencer notamment les États membres réticents.
Et un mouvement de fond d'autant plus nécessaire que les GAFA ne seraient que la partie émergée de l'iceberg. Pour Gilles Babinet, le vice-président du Conseil national du numérique, d'autres poids lourds se préparent à venir.
Il y a évidemment les GAFA qui sont des entreprises américaines, mais il commence à y avoir aussi des très très grandes plateformes qui viennent de Chine et qui seront probablement plus puissantes encore que le sont les GAFA aujourd'hui. Et donc c'est une raison de plus de redoubler d'efforts pour que la fiscalité soit réformée lorsque ces acteurs arriveront en Europe.
Et un premier pas sera donc fait avec cette loi qui sera votée au printemps.
Merci Isabelle Souquet. Votre enquête est à retrouver sur le site internet franceculture.fr. Demain après-midi, le soleil va dominer sur la majorité du pays. Seul un quart nord-est subira des pluies. Les températures resteront douces. 11 degrés au Havre, 14 à Paris, 18 à Perpignan. C'est la fin de cette édition préparée avec Emmanuel Faucillon. Prochain journal à 22h. Il vous sera présenté par l'excellent Guillaume Fariol.